des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité cette semaine, comme la semaine dernière, est René Mouriot, docteur d'État en sciences politiques, directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, ou CEVIPOF. Alors, vous vous souvenez peut-être, j'étais allée rencontrer René Mouriot en fin avril et il m'avait reçu chez lui très 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 gentiment. Et c'était un impénitent, on pourrait presque dire bavard. En tous les cas, j'avais bien du mal à poser des questions. Et là, justement, vous allez voir, on reprenait, ça parlait toujours du syndicalisme en Europe, mais aussi en France, dans le contexte de la mondialisation. Et j'ai posé une sublime question et là, vous n'allez pas être déçus. Pour une fois, on va vraiment entendre ma voix.
Un petit truc, encore une fois, que j'ai pas bien compris. Depuis 95, vous dites que le mouvement syndical est globalement antilibéral. Et quand vous avez parlé, enfin globalement, peut-être pas unanimement, mais disons globalement qu'il y a une nouvelle phase. Et finalement, vous avez parlé d'organisation, soit à dimension européenne, soit à dimension internationale. Mmh. Et le truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que finalement, ça semble rentrer dans cette espèce de logique qu'on entend tenir aussi aux partisans du libéralisme, d'une espèce de... C'est comme s'il y avait une espèce de recherche de gouvernance, comme il dirait, soit européenne, soit internationale, des problèmes liés aux travailleurs. Or, il me semble qu'un des points fondamentaux du libéralisme, enfin, sinon le point, c'est le libre-échange. Et si on veut qu'effectivement remettre en cause ce qui a trait à l'attractivité ou délocalisation, ça demande une remise en cause du libre-échange. Et je me demande dans quelle mesure le fait qu'on se dise, mondialiste malgré tout, comment c'est compatible avec une remise en cause, qui me semble en tous les cas moins nécessaire, du libre-échange.
Je vous répondrai deux choses, puisque votre question est assez complexe. La première, sur la caractérisation. J'ai dit le mouvement social était antilibéral. Ça ne veut pas dire que chaque composante syndicale était antilibérale. C'est pas le cas de la CFDT. Donc, les salariés ont pris conscience que le régime économique qu'on leur proposait était insupportable. Et ne pouvait qu'apporter plus de misère, de souffrance, d'intensification du travail sans égalité.
Mais en même temps, ils font leur, les notions d'attractivité.
Alors, la seconde chose, c'est qu'est-ce que c'est que le libre-échange et est-ce que le cadre européen est un cadre acceptable pour le mouvement syndical? Il y a vraiment eu européanisation de l'économie. Nous avons là, si on prend l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, ce sont les 10 arrivants. Sur les 15, il y a 13 qui acceptent l'euro, Maastricht. Quand vous avez une monnaie commune, vous avez déjà un quasi-pouvoir. Nous sommes pas dans une situation fédérale. Mais il y a un quasi-État qui s'est mis en place. Nous sommes soumis aux règles de Maastricht concernant le budget. C'est-à-dire que tous les parlements européens sont sous tutelle. Ils ne peuvent pas voter de dépenses supplémentaires. On est dans un système où il y a un pouvoir central, plus occulte que réel, que visible. Et plus bureaucratique que politique. Donc, dans cet espace, la lutte contre le libre-échange signifie que les relations avec l'extérieur de l'Europe ne doivent pas se faire n'importe comment. Donc ça, c'est le problème, d'une part, du dumping, d'autre part, l'échange avec notamment les pays de l'Est, les pays du Sud. Hein, parce que si vous êtes dans le libre-échange pur, vous ne fixez pas de prix de base aux produits de base. Hein. Donc vous étranglez les pays en voie de développement. Donc ça, c'est le libre-échange. À l'intérieur de l'Europe, c'est une coopération. Aujourd'hui, votre voiture qui est montée en France a des composantes qui viennent de partout. Hein. Il y a très peu de produits français dans viennent nos voitures. Hein. Donc là, vous avez eu une organisation économique qui fait que on ne peut plus raisonner dans le cas français uniquement sur les intérêts français. Mais c'est pas ça le libre-échange. Le libre-échange, c'est le commerce avec l'extérieur. Dans le cas européen, c'est un commerce en quelque sorte intranational. Comme autrefois, dans le cas français, entre les faiseurs de pièces Renault et puis le montage à Renault. Simplement, les pièces ne sont pas qu'en France, elles se font dans l'ensemble de l'Europe. Donc il y a eu une certaine unification de l'espace économique européen. Ce que le mouvement syndical ne combat pas assez, en tout cas dans certaines de ses composantes, c'est les règles, plus que du libre-échange, les règles de la concurrence et le respect d'un droit du travail. On est dans une situation où n'auraient d'autorité que les possesseurs de capitaux. Quand j'entends Ernest-Antoine Seyère, il dit « Nous sommes la France ». Le MEDEF, c'est les 700 000 responsables de l'économie française. C'est insupportable. Hein ? Il y a une négation de ceux qui travaillent, de ceux qui font que ce capital tourne. Donc là, le combat, il est pour l'établissement d'une économie sociale, c'est-à-dire prenant en charge les intérêts de ceux qui fournissent le travail vivant. Il n'y a pas que l'action contre le libre-échange, il y a l'action contre la concurrence productive, contre le fait que on détruit les règles sociales qui avaient été établies dans les pays les plus avancés, sans améliorer la situation des pays qui sont en voie de construction économique industrielle. C'est cette concurrence-là qu'il faut le plus stranguler. On vous dit aujourd'hui, dans les statistiques, que les pays pauvres ont beaucoup bénéficié du libre-échange. C'est un des thèmes récurrents. Hein, c'est, évidemment, il y a quelques pauvres, mais ceux qui veulent bien travailler s'en sortent. Alors ça, c'est une contre-vérité statistique. Parce que on vous fait des comparaisons en pourcentage. Mais il est évident qu'une économie qui débute avec un PNB, un produit national brut, de 100 000 euros, il passera à 500 000 euros très vite. Donc il a quintuplé. Mais avec 500 000 euros, ça fait quand même un très petit PNB. Donc les pourcentages masquent et donnent l'impression qu'il y a eu une percée étonnante d'un certain nombre de pays rapportés, non pas en pourcentage, mais en valeur absolue. Ce sont des progressions faibles qui ne justifient absolument pas le massacre économique qu'elle entraîne. D'autre part, il me semble que ces économies qu'on nous dit remarquables sont aussi fragiles, peut-être plus fragiles que les anciennes, et qu'il y a eu des bulles, des effondrements, les dragons. Eh bien, on a connu des crises monétaires incroyables. Donc, ces performances économiques d'un moment sont très très fragiles parce que un monde en concurrence est forcément un monde en déséquilibre et que je ne crois pas à la guerre pour la guerre sur le plan économique. La concurrence effrénée sans normes sociales aboutit à des désastres, y compris sur le plan économique.
Et oui, donc c'était bien la balade de Melody Nelson de Gainsbourg. Et bah, encore une fois, je vais me lancer dans une question assez longue pour une fois.
Vous disiez qu'il y avait quelque chose d'effectif dans le fait que l'économie s'est, disons, européanisée pour nous, Français. D'accord, mais bientôt on va être 25, ou on est déjà 25, je ne sais plus exactement, enfin, ça ne saurait tarder en tous les cas. Et là, il va y avoir, à l'intérieur même de l'Europe, du dumping social qu'on voit à l'évidence. Pourquoi les syndicats ne sont-ils pas porteurs d'un discours fort là-dessus? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils pourraient dire? On ne les veut pas?
Sur la construction européenne, les syndicats sont trop prudents. C'est-à-dire, en particulier, la CGT qui, après avoir noirci et combattu la construction européenne, acceptant maintenant l'idée, se trouve en difficulté pour dire « oui, je suis européen, mais autrement ». Seconde chose, il y a ceux qui ont voulu une Europe sociale, comme autrefois la CFTC, et j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'il y a eu des commissaires européens syndicalistes pour légitimer la CECA avec pris comme dirigeant des syndicalistes. Ça a été abandonné, parce que dans le processus plus général que j'ai indiqué, de libéralisation, on ne va pas reconnaître la légitimité aux syndicalistes, puisque ce sont des obstacles. Donc il y a eu un recul de la présence syndicale au cœur même de l'Europe. Seconde chose, comme je l'ai dit, ceux qui étaient contre s'y rallient et ont un obstacle. Troisième élément, oui, il y a des remarques, il y a des perceptions sur l'arrivée des 10 nouveaux. Le traité est signé, ils vont arriver, mais je crois que c'est un peu plus tard que la chose va devenir officielle. Et normalement, la convention devait fournir le cadre juridique à l'Europe des 25. Donc là, il y a une panne. Mais ils entreront, c'est signé, même s'il n'y a pas de nouvelle architecture. Il y aura concurrence. Il y avait déjà concurrence dans le cadre de l'Europe qui avait commencé à 6, hein, l'Union européenne, la CE, la Communauté économique européenne, la CE a été à 6. Puis progressivement, c'est élargi. La Grande-Bretagne, qui avait créé l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, a senti que sa tentative avait échoué. Elle est entrée dans le... Il reste, vous savez, des pays qui sont membres de l'AELE, comme la Suisse. Cette Union européenne a inclus des pays nettement moins développés que le noyau original. Les grandes puissances, c'était l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France. L'Italie a eu des difficultés. Je ne parle pas de l'Espagne, de la Grèce. La Grèce a été bouleversée par l'adhésion. Son agriculture a été démantelée. Démantelée largement par cette concurrence interne. Donc le phénomène se reproduit. Alors, il suffit d'aller en Pologne pour voir ce qu'est devenue l'économie polonaise, hein, et la prise de participation étrangère dans l'économie, hein, le commerce Carrefour, tout ça est entré en Pologne. La presse polonaise est étrangère, le capital a été acheté. Et en même temps, vous allez avoir un déplacement de main-d'œuvre, il y a des concurrences qui vont jouer contre... je pense par exemple aux pilotes. Les pilotes de l'Est vont faire concurrence parce que leurs prix, leurs salaires sont sans commune mesure avec les salaires européens. Donc il va y avoir cette concurrence. Y aura-t-il des délocalisations? Là, ça sera dans certains cas, au fur et à mesure où les économies anciennes européennes se sont technologisées, il y a de moins en moins de place à une délocalisation. Donc on retrouve une division du travail, donc il y aurait une Europe qui fabriquait encore des éléments, disons, d'industrie de main-d'œuvre, et qui seront assujettis au même processus de concentration. Alors pourquoi les syndicats n'en disent pas plus? Par peur de leur ombre, et pour ne pas gêner ceux qui ont envie d'entrer. Parce que là, le paradoxe, c'est que ces pays, je pense à la Pologne, espèrent gagner beaucoup. Ils ont tellement vécu mal leur socialisme, hein, de caserne, pour reprendre une vieille expression, qu'ils voient dans le libéralisme une bénédiction. Quand vous voyez l'histoire de Solidarnosc a explosé, parce qu'il y a ceux qui ont entendu rester fidèles à une défense des salariés, puis ceux qui ont opté pour l'entrée dans l'Europe. Je suis allé, si vous me permettez cette confidence, je me souviens d'avoir participé à Varsovie, invité par le ministère du Travail et l'université, à un débat sur l'Europe sociale. Peu de personnes entendaient les avertissements que deux collègues et moi-même disions sur ce qu'est l'Europe. Ils n'en croyaient pas un mot. Nous étions pas des pessimistes, des atrabilaires. Nous leur présentions une Europe qu'ils ne croyaient pas exister. Donc la surprise, elle va être douloureuse. Elle a déjà commencé. Ces économies souffrent de l'assujettissement au libre-échange sous forme de concurrence internationale.
Mais est-ce que ça veut dire... je me souviens avoir vu, moi, un reportage récemment, alors soit c'était sur Vilvoorde, soit sur une grosse industrie comme ça qui s'était cassée la figure. Le journaliste était allé interviewer quelqu'un dans les structures européennes, je ne me souviens plus exactement quel était son titre, mais quelqu'un de la technostructure, on pourrait dire, qui expliquait... que, mais oui, certes, effectivement, l'élargissement de l'Europe pouvait amener des difficultés en France pour nous, mais que ça allait être bien pour les Roumains, par exemple. Le jour où ils en rentreront, je ne sais pas s'ils font partie de la fournée cette fois-ci.
Pas encore, mais
ça ne saurait tarder. Est-ce que finalement, on ne va pas... en vérité, j'ai presque deux questions sur ce truc-là. C'est est-ce que finalement, on doit donc... est-ce qu'on va nous servir la sauce du sacrifice en permanence, et est-ce qu'on n'a pas le droit aussi de se dire mais en France on a besoin que des industries existent encore, qu'il y ait une certaine structure du tissu industriel, c'est une nécessité pour la cohésion sociale. Et le deuxième pendant de cela, c'est de savoir si finalement il n'y a pas une espèce de course, une espèce de fuite en avant permanente dans l'adhésion de nouveaux mondes, ce qui permet à chaque fois de reposer le problème des normes sociales qui descendent. Parce qu'avant, on délocalisait en Espagne, puis maintenant, les Espagnols, ils ont un niveau de vie qui a augmenté. Donc maintenant, on va délocaliser en Pologne. Quand les Polonais auront vu leur niveau de vie augmenter, on va délocaliser en Roumanie. Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce comme ça de fuite en avant? Si c'était le cas, que disent les syndicats?
Alors, trois choses. Oui, il y a au sein de la CES des gens qui sont... entièrement acquis à la construction européenne telle qu'elle se passe.
Quitte à sacrifier.
Quitte à sacrifier, parce que c'est une bonne chose, parce que c'est une zone de paix, une zone de démocratie et une zone de profit. Donc je vous dis oui. Il y a des luttes. La nouvelle équipe qui a été élue n'a pas encore vraiment tranché, mais ce sont des pragmatiques. Mais je ne peux pas encore vous dire que ça fait partie des enjeux, des luttes au sein du DGB allemand. Vous avez des gens plus à gauche, comme l'IG Metall, qui dit non, ça va pas. En France, bon, la CGT, malgré tout, perçoit qu'il faudrait être plus exigeant. Mais ça ne prend pas suffisamment corps, et la parole de ceux qui disent qu'il faut accepter comme ça se passe est quand même... une parole trop prégnante, trop dominante. Sur votre seconde question, bien sûr qu'on est face à un processus. Et le capitalisme va de crise en crise. L'étonnant, c'est que sa vitalité est telle qu'il surmonte au prix d'énormes gâchis, mais jusqu'ici, il a toujours retombé sur ses pieds. Il a eu une phase où il a été discuté, contesté, et il y avait un espace politique qui semblait être autre chose. Cet espace a disparu. Bon, il reste la Chine, mais je crois que tout le monde s'accordera que la Chine ne s'engage pas sur un mode de développement autonome. Donc, il n'y a pas de contre-modèle. Ça casse les pattes. Mais dans le processus, bien sûr, que il y aura une accélération. Alors, après, il y a le problème des équilibres politiques. C'est que bon, l'Europe, elle a des limites.
Mais est-ce que ça veut dire que pour une logique politique qui peut éventuellement se comprendre et qui a poussé certains, par exemple, à voter pour Maastricht, puisqu'on nous avait servi la sauce, peut-être juste d'ailleurs, de faire un contrepoids aux États-Unis, est-ce que ça veut dire donc qu'il faut accepter l'idée de sacrifier une, deux ou trois générations, j'allais dire, de travailleurs?
Non, je ne suis pas sur cette problématique parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette logique économique, elle n'est pas performante. L'étonnant, c'est qu'on nous présente un système économique comme le meilleur, et en même temps, les coûts, rien que du chômage, sont anti-économiques. On se prive du travail de gens, on les rend malades. Donc, l'idée que le profit est le critère économique est une idée de gens à l'esprit, je crois, très limitée. Donc là, il ne faut pas avoir peur des mots. Et je ne crois pas du tout que ça soit la meilleure économie. Seconde chose, par rapport à votre question, savoir... s'il faut accepter deux ou trois... Non, enfin, d'abord, c'est inacceptable. Et on voit le processus, il commence. Il y a vraiment des refus insuffisamment formulés parce que ni il y a les idées, les objectifs, les contre-propositions sont suffisamment présentes, articulées, ni la volonté de se battre. Il y a encore... Il y a un refus qui est majoritaire sans être unanime. Et il y a des gens qui voudraient que ça continue comme ça. Et ce sont en général ceux qui ont les pouvoirs économiques et politiques. Mais chez ceux qui sont les principales victimes, il n'y a pas encore une sortie massive du fatalisme. On est dans une situation intermédiaire, on est sorti du creux, qui était vraiment caractéristique des années 76-86, la formule de François Mitterrand, on a tout essayé, le chômage est un mal, et on nous a inventé cette notion de norme structurelle de chômage. Cette norme structurelle de chômage, elle est en fonction d'options, elle n'a aucune réalité objective. Donc par rapport à votre question, non, je ne crois pas que ça se fera, parce que déjà, il y a du refus, mais la logique du capitalisme financier qui est le nôtre est de balayer ces objections. Les salariés, les travailleurs sont des instruments, donc peu importe qu'ils soient malades, qu'ils soient tourmentés, qu'ils souffrent, c'est absolument pas le problème de ce type de capitaliste. C'est, on regarde le ratio.
Mmh. Oui, c'était donc Des Sous et des Hommes avec René Mouriot du Cevipof. Je vous rappelle qu'il a écrit un petit livre qui s'appelle Le syndicalisme en France depuis 1945 aux éditions La Découverte. Ça coûte aux environs de 50 francs. Vous convertirez en euros vous-même. C'est un petit livre très 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 documenté. René Mouriot étant un des grands spécialistes du syndicalisme en France en particulier. Eh bien, dans les émissions à venir, je ne désespère pas de bientôt vous faire une émission sur la sécurité sociale et peut-être bien aussi sur le travail et tout ce que nous concocte le MEDEF et le gouvernement, si on ose les mettre l'un à côté de l'autre aussi rapidement. Autrement, vous pouvez retrouver les émissions de Des Sous et des Hommes sur le site internet www.desoutsetdeshommes avec un tiret entre chaque mot. Toutes les dernières émissions ne sont pas encore en ligne, mais la fin de l'année approchant, il ne faut pas désespérer. Voilà, à la semaine prochaine.